Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 160. Mon nom est Paul Andriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Pascal, qui nous vient de la ville de Québec, en fait. Pourquoi t'es là en ce moment exactement?
Ah non, ben c'est ça, ben j'étais là pour aller au festival d'été. J'avais ma belle-sœur, mon frère, tu sais, qui était à Québec plus que ça. Puis finalement, comme la rue Frontenac est en travaux, là, ma rue chez moi est en travaux, puis j'ai la conception sonore à faire par-dessus la tête, j'ai décidé de pas revenir à Montréal pendant les travaux, les amis. Je suis resté chez les parents.
Ben, c'est malade, ça!
Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai passé deux semaines à Québec, chez les parents, avec mon frère, mes amis, tout le kit. Puis c'est ça, on va parler de Dunkirk, mais il avait pas 110 000 à Québec. Fait qu'en tout cas, bref, on va y revenir, là, mais je vous expliquerai aussi dans quel contexte j'ai pu voir le film. Puis, c'est ça, là, j'étais allé voir Metallica, j'étais allé voir plein d'autres bands comme ça, puis la vie est belle, là, c'est l'été. Fait que voilà.
Point de vue, le podcast 100% musique à Québec.
Ouais, c'est ça. Je peux faire un top 5 des shows que j'ai vus au festival d'été, si tu veux.
Mais... Et puis, dans les nouvelles cette semaine, le chanteur de Linkin Park nous a quittés.
Ah ouais, ben oui.
Triste nouvelle dans le monde musical.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est ça ce que je veux dire, en fait, Dunkirk à Québec. Donc, tu l'as vu doublé en français ou en
anglais?
Non.
Non, mais je l'ai vu au clap, tu sais. Fait que je veux dire, je l'ai vu en anglais. Déjà, tu sais, c'est bien, là, ce qui est pas toujours
clap, gagné. Clap est un cinéma un peu plus répertoire. Là,
ouais, c'est ça. Pas, là. Ouais. Non, c'est ça, exactement. Puis, en fait, c'est vraiment ironique, tu sais, que ce soit au clap, parce que Nolan, j'ai l'impression que c'est un peu exactement le consensus entre film d'art puis film grand public. Fait que, tu sais, que le film se retrouve au clap, je trouvais que symboliquement, ça représentait quelque chose d'intéressant.
Mais c'est à Montréal, il joue au cinéma aussi, du parc aussi.
Ouais, c'est ça. Fait que, on va y revenir de Dunkirk, parce que là, c'est Fantasia qui bat son plein, puis parlons Fantasia.
Ben oui, parce que à Montréal, pendant ce temps-là, Pascal, en fait, il y a un petit festival qui fête son 21e cette année, Fantasia.
Ouais. Ben, je reviens là. Je vais en voir des films, je vous promets.
Puis là, justement, c'est un festival qu'on couvre à chaque année, mais là, plus que jamais, on est vraiment très impliqués dans le festival, notamment Rémi, toi, t'as été un des programmateurs des week-ends du cinéma québécois, Fantastic Weekend.
Les Fantastic Weekend du cinéma québécois, ouais.
Qui passe au pluriel,
oui, mm-hmm. C'est ça. Ouais, ben avant, c'était comme concentré dans une fin de semaine, fait que les gens avaient comme pas le temps d'aller voir parce qu'il y avait trop de stock. Mm-hmm. Fait que c'est cette année, la décision a été prise que ça allait être étendu à travers le festival, durant les week-ends du festival, les trois week-ends, parce que le festival dure quand même trois semaines. Puis pour vrai, c'est payant parce que on a des belles salles, là. Il y a vraiment du monde qui se déplace pour voir du court-métrage, puis on a une des plus grosses salles pour du court-métrage en festival. Là, je dis ça sous toute réserve, là. Mais tu sais, c'est une salle de 400 places, fait qu'on peut quand même accueillir du monde, là.
Mmh. La salle des Biclark, je l'aime, mais comme elle a beaucoup de cachets, en fait, cette salle-là, ouais. Je trouve.
C'est l'entre-deux, en fait. C'est parce que t'as la petite salle qui est 200, c'est la de serve. Puis t'as la très grande salle qui est la Hall Building, là, qui est 700 places. Mmh. Puis celle-là, 400, t'es comme dans l'entre-deux parfait, je trouve. Puis quand c'est bien foulé, là, l'ambiance est vraiment forte.
Mais même la salle donne des ambiances différentes, en fait. Tu le sens quand tu vas voir un film au hall ou que tu vas voir un film à la DSEV, ou tu sais. Puis peut-être aussi, évidemment, la programmation aussi suit ça un peu, tu sais, dans le sens que les gros blockbusters puis les gros films, mettons, d'adaptation de manga connus vont tous être dans le hall, tandis que les films plus petits, puis je dis pas ça pour être péjoratif, mais tu sais, c'est une réalité, là. Des documentaires ou des programmes de cours comme ça vont être dans la D.B. Clark ou dans la salle de Sev. Puis il y a vraiment comme un autre ton. Tu sais, dans la DSEV, ça miaule à peine, tu sais. Puis il y a moins de l'euphorie. Tandis que dans le hall, là, tu rentres, puis là, il y a une pub, la pub coréenne de Noodle. Tout le monde se met à gueuler, puis à applaudir. Puis il y a vraiment de l'électricité dans l'air. Mais c'est bien, en fait. Je trouve que les trois salles sont très complémentaires. Ils ont chacun leur identité. Puis le fait aussi qu'ils sont tous à comme une minute de marche, c'est vraiment...
Ouais, parce qu'avant, il y avait des trucs à Cinémathèque. Ça, c'était un peu plus rushant de faire tout le trajet, là, tu sais.
Il y en a encore quelques-uns, là.
Pas beaucoup.
Je pense qu'il y a une couple de productions de 35 mm.
Oui, c'est vrai. Il y a Simon Les Nuages qui va passer, qui est un des films que j'ai vraiment hâte de voir en 35. Mais sinon, il y en a vraiment pas beaucoup cette année. Hein. Avant, c'est que là, il y avait beaucoup de contenu québécois à Cinémathèque. Mm-hmm. Puis c'est comme tout dans la D.B. Clark cette année. Puis l'affaire, c'est que tu sais, dans les rouages, là, ce qu'il faut savoir, c'est que la D.B. Clark n'appartient pas à Concordia. C'est une salle qui est à Concordia, mais qui appartient à un particulier. puis qui est loué par l'université, puis qui est comme, il y a comme une entente avec l'université. Fait que quand Fantasia utilise cette salle-là, ils doivent utiliser l'équipe du DB Clark. Ils doivent comme avoir une entente avec cette salle-là et la louer en séparé. C'est sûr que dans les années précédentes, c'était comme compliqué, puis cette année, on réussit à avoir un deal parce que c'est pas le même propriétaire. Fait que c'est comme, ça rajoute une complication. Puis on le voit vraiment, tu sais, on a eu des, c'est la salle où on a eu des problèmes techniques, en fait, la DB Clark. Il y a eu des problèmes de son, des problèmes de micro aussi, là. Il y a une projection de court-métrage que j'ai animé en criant fort, une chance, j'ai une voix qui porte, là. Mais tu sais, en plus, c'était hot parce que c'était comme la psychotronique. Fait que, tu sais, ça ouvre que j'ai pas de micro. Fait que c'est comme, ça part weird, tu sais, puis tout était weird dans cette soirée-là, puis ça a fait partie un peu de la du show, là. Mais
t'es tellement positif, c'est... Rémi, genre, même un bug technique, tu réussis à, comme, le justifier.
Ben, c'est ça.
Show must go on, aussi.
Ouais, ouais, mais c'est ça, fait, puis, ben, tu sais, il va y avoir la projection de Carmina qui va être là, puis c'est beaucoup le contenu québécois ou les trucs, ouais, les entre-deux, là, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est à quel point les salles sont, ils arrivent juste dans les salles en quantité de personnes. Tu sais, moi, c'est pas moi qui décide quel film va dans quelle salle, là, mais des fois, genre, je suis tellement impressionné de voir que on est pile le bon nombre pour remplir la salle. Tu sais, of course, il y a des séances avec un peu moins de monde, puis sur 160 films, c'est pas toujours direct dessus, mais habituellement, là, les salles, on est direct dessus. C'est comme, tu sais, j'ai programmé un Kung Fu Zombie, là, un genre de nanar à assumer, là, québécois, puis il y avait comme 360 personnes dans la DB Clark qui en contient 400, là.
Ouais.
Fait que c'est vraiment impressionnant de voir ça, puis de je sais pas, là, la justesse dans la programmation, là, il y a du monde qui font de la bien belle job en background, en tout cas.
Bon.
Mais ce que je pense que Fantasia fait bien aussi, c'est que, tu sais, depuis 21 ans, ils ont vraiment toujours... récompenser leur public, puis ils ont toujours vraiment essayé de fidéliser leur audience. Tu sens vraiment que c'est fait pour les fans. Il n'y a pas une espèce d'antagonisme envers le public, là, au contraire. Donc, vraiment, il y a un public dévoué. Et il y a certains films que, dès l'annonce de programmation, tu le sais qu'ils vont être sold out. Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin de mettre la publicité là-dessus, puis de mettre l'accent là-dessus. T'sais, des films comme Valérian, justement, en avant-première, même si ça sort dans les salles, les gens veulent le voir le plus tôt possible. Les adaptations de manga, des premières mondiales, de films d'horreur, des trucs comme ça. Donc, c'est ça, ils n'ont pas nécessairement besoin de pousser. Et à chaque fois que tu vas voir un film à Fantasia, c'est évidemment évident comme concept, mais tu as des slideshows avec des films à venir plus tard dans le festival. Tu as toujours des rappels un peu. Des fois, les programmateurs qui font les présentations des films, ils nous disent, mettons, ah ben si vous aimez ce film-là, mettons tel drame japonais, je vous recommande aussi tel film qui joue lundi, qui est un peu dans le même ton. Donc, c'est ça, le festival, en fait, le fait très bien d'accompagner le public, de le récompenser, puis peut-être justement de mettre plus de pub pour les films qui ont peut-être plus de difficultés à vendre.
Ah, puis cette année, en plus, il y a une émission web, là. Je sais pas si vous avez vu sur la page du festival, mais c'est un live show sur Facebook. Ils ont construit un décor dans un studio à Concordia, puis ils reçoivent les réalisateurs de la journée. C'est un show de 20 minutes, 22 minutes, là. C'est vraiment un genre de format télé, là.
Ça fait un décor très Wayne's World, un peu.
Ah oui, non, mais vraiment. Puis moi, j'étais allé la première fois, là, j'étais allé parler des films québécois sur le premier épisode. Puis tu te sens comme... J'ai dit exactement ça. C'est vraiment le dans Wayne's World, quand ils arrivent dans le décor de leur sous-sol, mais qui est dans un studio, là. Là, t'arrives, ils sont comme vraiment confus parce que c'est exactement leur sous-sol, mais il y a genre... C'est un studio avec plein de techniciens autour, là. Fait que c'est vraiment ça. Puis c'est animé par Benoît Mercier, qui fait Les Mystérieux Étonnants, qui est comme un des podcasts les plus importants au Québec, là. Ils sont à 500 quelques épisodes, là. Benoît, il est fort, là. Il est très, très rodé sur les entrevues. Puis il m'avait même interviewé. J'avais croisé il y a 4-5 ans, là, quand on avait fait Les Jaunes. Il m'avait invité à l'émission pour aller parler de la série. Puis, tu sais, c'est... C'est encore là, c'est encore vraiment actif ce podcast-là. Ils viennent de célébrer leur 500e. Là. Mm-hmm. Fait que c'est ça, c'est Benoît qui anime ça tous les jours pendant tout le festival. Puis Olaf Svensson qui réalise, c'est genre tourné en multicam live sur Facebook. C'est vraiment hot, là. C'est comme. C'est le next level live stream, là. C'est vraiment bien fait.
Ouais, ouais.
Bon. Mais à Fantasia, il y a aussi des films. Fait que Rémi, là, t'as vu 40 millions de films
non,
déjà,
non, mais
là.
Ça n'a pas de sens. Je suis super occupé, je travaille full-time. Je tourne un court-métrage dans une semaine. C'est comme, j'ai un été vraiment busy. Puis je sais pas comment j'ai fait. Puis j'ai vu, à date, en une semaine et trois jours, j'ai vu 19 films.
Tabarnak.
Je sais pas comment, sérieux, j'ai aucune idée. Mais c'est parce que souvent, tu sais, je vais aller faut que j'aille présenter un programme de court-métrage, mais je reste pas parce que les films, je les ai vus trois fois chaque, là. Fait que je quitte, puis là, je vais voir un autre film en attendant que ça finisse, puis après, je vais voir si tout a bien aidé, tu sais. Mais tu sais, finalement, je colle au festival le soir, à tous les soirs, puis je vois deux, trois films par jour, là. Fait que ouais, c'est ça, c'est vraiment intense cette année. Je pense que je vais me calmer plus vers la fin du festival, mais à date, c'est une bonne cuvée. J'ai triché quand même, là, il y en a deux là-dedans que j'avais vu avant le festival. Fait que mettons que j'en ai vu 17 en. Ce qui est quand même ce qui est encore pas pire, tu sais.
T'as-tu vu Valérian, justement?
J'ai vu Valérian. Puis attends, je vais faire ma joke une dernière fois parce que je l'ai faite pendant toute la dernière semaine, mais ça ne valait rien. Tu peux-tu mettre un effet sonore après ça, genre,
quand non, tu vas monter le podcast? J'ai râlé, c'est ça l'effet sonore. Ouais, non, mais pour vrai...
Non, mais tu sais, c'est un méga spectacle visuel, là, c'est vraiment impressionnant à voir, mais c'est parce qu'à un moment donné, des effets spéciaux, quand t'as une production à 180 millions, c'est sûr que ça va être beau, là. Je sais pas comment le dire, là, mais genre, je vous dirais que c'est un genre de mélange entre Star Wars épisode 1, épisode 1, et Avatar, genre. C'est pas mal ça, mon feeling du film, parce que le gros problème du film, là, c'est que ben, le premier gros problème, c'est que c'est complètement chaotique, l'histoire. On sait jamais qu'est-ce qu'ils font, où ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Tu sais, j'ai appris après que c'est, en fait, ça avait été basé sur 12 bandes dessinées. Ils ont pris 12 extraits de bandes dessinées. Puis tu sais, ça paraît, là, c'est une espèce de collage de moments... avec des personnages qui vont popper 5 minutes, qui disparaissent, tu sais.
Parce que c'est ça, toi tu connaissais pas la BD avant, Rémi.
Non, non, c'est ça.
Parce que c'est ça, c'est une BD culte, là, vraiment, en France, là.
Mais tu sais, quand tu vas voir un film, t'essaies de le voir comme un film, comme une œuvre en soi, puis t'essaies de pas trop... Ouais. Tu sais, si tu regardes les films d'Harry Potter, ben, c'est, à un moment donné, si tu te mets à décortiquer, « Hey, mais ça, c'était pas là, puis ça, c'est pas ci », à un moment donné, il faut que tu t'adaptes au médium qui est le cinéma. Fait que je l'ai pris comme un film aussi, là, ça m'a permis de le voir comme ça, puis c'est vraiment un gros chaos mais
c'est quoi l'histoire, au fait? Je veux dire, aussi chaotique soit-elle, là, tu peux te faire un petit synopsis rapide, en fait? Parce que moi, j'ai juste vu plein d'images, des posters, évidemment, qui mieux, mais je sais pas plus que ça de quoi ça traite.
C'est qu'il y a une planète avec une race extraterrestre qui vivait en harmonie sur cette planète-là. Puis c'était comme la joie ultime, puis tout à coup, les humains ont débarqué, puis il y a eu une guerre qui a fait que la planète a complètement explosé. Puis restait une petite colonie dans l'espace de cette trace-là. Puis eux, dans le fond, ben ils cherchent à retrouver une genre de perle qui était une de leur monnaie, une des trucs qu'ils donnaient à la Terre pour que la Terre, leur planète, subsiste. Puis il en reste une de ces perles-là. Puis en fait, ils essaient de la retrouver dans l'espace. Et en parallèle, ben t'as Valérian et sa complice, je me souviens pas de son nom, là. Mais les deux essaient, dans le fond, de...
C'est pas l'Aurélie, je pense?
Oui, c'est ça, c'est ça. Puis les deux, en fait, ils essaient de t'aider eux, mais en même temps de survivre. Mais c'est qu'il y a tellement de trames narratives en même temps. À un moment donné, tu te perds là-dedans. Tu sais, principalement, c'est ça, l'histoire. Puis tu sais, Valérian, c'est comme le meilleur agent ou je sais pas quoi de l'espace, le meilleur... je sais pas c'est quoi le terme exact, là, mais le meilleur gars dans un suit spatial qui est bon, là. Je sais pas trop, là. C'est comme l'agent ultime, là, que s'ils ont des missions, ils donnent ça. Mais pour vrai, là, genre, le gars, il est... je me souviens pas de son nom, là, mais il jouait dans Cure for Wellness, là.
C'est Dane DeHaan.
Ah, merci. Sérieux, une chance que t'es là, Paul. J'ai même pas IMDb, tu vois. I don't care that much, là. Mais
lui, c'est un bon acteur, je trouve.
Vraiment, mais il est comme tombé sur deux estis de mauvais films cette année, là. Je suis comme... Cure for Wellness, là, je l'avais parlé au podcast, mais c'est vraiment pas bon. Pis,
ouais, c'est ce que t'as dit. Hein.
Tu sais, Valérian, en plus, tu sais, mais c'est ça, c'est vraiment un bel univers, mais c'est pas mal ça que je peux dire, parce qu'après ça, c'est un ramassis de n'importe quoi, puis lui, il est pas full charismatique là-dedans, il a pas l'air d'un, tu sais, mettons que tu veux faire la comparaison Cinquième Élément, t'avais Bruce Willis puis son star power, puis t'as lui, là, tu sais, c'est vraiment pas comparable, puis la romance, elle marche pas en tout, c'est super forcé. Puis tu sais, mettons là, je vous donne un exemple de comment Besson il voulait triper avec son univers, puis que ça marche pas. Mais il y a une scène là, il y a un plan séquence parce qu'il y a tout le temps un esti de plan séquence avec du CGI là. Puis là, en gros, c'est Valérian qui teste son suit. Là. Ben il teste pas son suit, il sait comment qu'il marche, mais il le montre au public, tu sais. Puis là, c'est un plan séquence, il court, il traverse des murs. Puis là, après ça, on voit le plan là, dans la bande-annonce. Là, si vous voyez la bande-annonce, vous allez savoir exactement de quoi je parle. Il traverse des murs avec le saut. Après, il y a un gun qui crée des plateformes flottantes. Fait que là, il tire. Là, il saute sur les plateformes. Là, il plonge à une place. Là, il est dans l'eau. Puis là, il y a des bottes roquettes là, qui le propulsent dans l'eau. Puis là, c'est comme
Nice.
tout en plan séquence. Puis, tu sais, il n'y a rien de ça, là, les plateformes ou whatever qui reviennent après dans le film. C'était juste pour montrer qu'il y a le saut le plus hot au monde. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est ça, là. C'est genre, c'est un gros démo d'effets spéciaux. Puis, tu sais, c'est beau au final, là. C'est ça, je peux dire, là. C'est. Mais t'as des bonhommes là, comme Jar Jar Binks, là, pis t'as des. C'est vraiment des couleurs de Star Wars épisode 1. Il y a des bouts, ça me rappelait vraiment, vraiment ça, mais mettons avec, l'esthétique d'aujourd'hui, là. C'est des bonhommes comme dans Avatar, là. Le 3D est aussi bien fait qu'un Avatar, mais t'as comme un peu le chaos scénaristique d'un Star Wars épisode 1, là.
J'ai lu sur Twitter quelqu'un qui le comparait un peu au. C'est comme le Jupiter Ascending de cette année. Je sais pas si tu l'as vu
Ouais.
justement.
Ouais, quand même. Ouais, Jupiter Ascending, c'était peut-être même moins bon, là. C'était assez particulier, là, mais ouais, Valérien, là, ouais. Sorry, c'est ça qui est ça.
Bon,
Mais
ben.
il y a eu des bons trucs, par exemple, là, tu sais, ben, une expérience de cinéma chaque fois que ça revient, c'est magique, là, mais Gabriel Thibodeau qui m'a amusé qu'un film muet, puis cette année, c'était The Man Who Laughs,
Oui.
puis avec Conrad Veidt, le 1928, j'avais jamais vu ce film-là. Puis c'est comme la meilleure façon de le découvrir, c'est sur grand écran avec 9 musiciens sur scène. C'est comme,
C'est
c'est
clair.
un film fabuleux, là. C'est un masterpiece. C'est un truc que tu regardes pas sur ton laptop chez vous avant de te coucher, là. C'est, fait que c'est une grosse découverte, là. Ça fait partie du cinéma expressionniste allemand. Ben, c'est vraiment dans la même veine, dans la même esthétique, mais ça mêle en même temps les couleurs d'un, les couleurs, c'est en noir et blanc, là, mais les couleurs d'un Universal Monster de l'époque, là. C'est les Frankenstein et compagnie, fantômes de l'opéra. Puis c'est ça parle du, un jeune garçon qui a été défiguré quand il était tout jeune, puis qui a été rejeté par la famille, puis finalement il se retrouve dans un cirque, puis il grandit, puis il y a cette espèce de sourire-là en permanence, puis tu te rends compte qu'il est dans une lignée royale, puis il faut qu'il regagne ses armoiries. Mais c'est vraiment fabuleux, le fait que, t'sais, ça, mais ça c'est une expérience particulière parce que c'est pas dans les disons dans les découvertes Fantasia, mais moi c'était une de mes découvertes de l'année, là.
Non, mais ça compte, là. Je trouve
Ah
que
oui, ça compte.
c'est tellement plaisant quand les festivals justement font des efforts pour faire des classiques comme ça. D'ailleurs, la FCVQ aussi, ils font ça un peu à chaque année.
Ah ouais, vraiment,
Puis
hein,
il y en a deux cette année qui ont annoncé. Il va y avoir genre, c'est la passion de Jeanne d'Arc.
ouais.
Puis l'autre. J'ai oublié c'était quoi le deuxième, mais en tout cas, c'est comme deux vraiment bons films avec des musiciens live, là.
Ah ouais, c'est fou ça. Moi, j'avais vu, tu sais, The General aussi, c'est ça, au FCVQ, avec musique et tout. Tu sais, c'est vraiment des expériences uniques parce que, ben justement, tu sais, on va en salle pour vivre une expérience, pour, tu sais, partager un moment avec des gens. Quoi de mieux, finalement, que de combiner, justement, tu sais, musique live, vieux film, puis tout ça. Mais The Man Who Laughs, en fait, c'est ça, c'est Paul Leni, Leni, là,
Ouais,
le
ouais, ouais,
réalisateur. Puis c'est un réalisateur qui a jamais dépassé le muet, en fait, parce qu'il est décédé très jeune, là, tu sais, il est décédé dans les années 20. Puis on dirait que les livres d'histoire, il est vraiment pas dans la conversation. Ben, tu sais, évidemment, c'est pas Murnau ou c'est pas, tu sais, Lang ou tout ça. Fait que, en plus d'avoir choisi comme un film de cette époque-là, ils en ont pris un, j'ai l'impression que c'est vraiment audacieux comme choix même
Ben,
de film, comme choix de réalisateur, ouais.
c'est Marc Lamotte qui programme toujours les vieux films, puis il l'a introduit exactement comme tu viens de faire. Tu sais, il dit Paul Leni, c'est le grand oublié de cette période-là, malheureusement.
Exact, ouais, c'est ça.
Mais tu sais, tu vois le film, c'est mégalomane, là. C'est tellement une grosse production. Il y a des. Tu sais, quand tu prends conscience aussi du travail que ça prenait à l'époque avec le format des caméras, l'éclairage que ça nécessitait, tu sais,
Ben oui, ben
il y a des plans de bateau, là, puis de nuit. Puis à l'époque, tu sais, la pellicule n'était pas si sensible, puis ça prenait vraiment beaucoup d'éclairage pour pouvoir avoir les images. Puis c'est pour ça, entre autres, que, mettons, dans Nosferatu, les scènes de bateau qui sont censées se passer de nuit, ils sont tournées le jour. Puis c'est
oui.
comme daylight, là, t'as vraiment le gros soleil. Puis c'est tourné le jour, mais parce qu'ils pouvaient pas dans Nosferatu, c'est quand même quelques années avant aussi. Mais dans The Man Who Laughs, ben, t'as des scènes de bateau de nuit, là, tu sais. Puis c'est probablement, tu sais, I guess que c'est tourné en studio parce que. Tu sais, l'éclairage, il est là, puis
Ouais.
c'était pas possible d'aller on location à l'époque avec des câbles électriques, là. C'est comme. Fait que probablement qu'ils ont construit, tu sais, un décor avec un bateau, un format réel dans un studio, puis qu'ils ont éclairé leur set, ça a pas de sens, là. C'est tellement impressionnant à regarder, là.
Ouais.
Ben d'ailleurs, c'était considéré comme le Valérian de l'époque, là.
Rien de moins. Non.
Avec les plus grandes technologies
Ah ouais, c'est ça.
Mais sinon, Rémi, aussi, je vais prendre le relais aussi pour pas que tu monologues pendant 30 minutes. Parce que j'ai vu également des films à Fantasia.
Oh.
Je ne parlerai pas par contre des films de la section Caméra Lucida, étant donné que je suis jury et je dois me garder un devoir de réserve là-dessus. Mais je t'invite Rémi à le faire ensuite si tu en as vu. Notamment le film d'ouverture, en fait, je sais pas si tu l'as vu, Rémi, de Villainess.
Oui, j'étais là, ouais.
Ouais, ça, c'est un film coréen. Puis j'ai l'impression que cette année à Fantasia, peut-être que la Corée est particulièrement à l'honneur, peut-être plus que d'habitude. Il y a également un film coréen en clôture, A Taxi Driver. Puis beaucoup de grosses pointures. Et de Villainess, ça, c'est une espèce de. C'est dur à décrire comme film, c'est ultra violent. Il y a des scènes d'action quand même assez hallucinantes techniquement. Puis, tu sais, ça commence notamment, il y a une espèce de... Tu sais, imaginez, là, la scène d'action dans Old Boy, l'espèce de one-take dans le couloir,
ouais,
avec les marteaux, puis les armes blanches, puis une tonne d'ennemis. Mais tourné à la première personne, façon Hardcore Henry, là.
Ouais, c'est vraiment... c'est très Hardcore Henry, mais avec des arts martiaux, là.
Ouais. Fait que ça commence comme ça. Puis, il y a quelque chose aussi... On est habitué, je pense, avec les films coréens, les thrillers, tout ça, d'avoir vraiment une espèce de fluidité de la caméra, puis quelque chose de très lisse, puis de très, comme, précis. Puis là, au contraire, c'était vraiment ça, c'était les scènes d'action avec des caméras qui shake, puis tu sais, il y avait quelque chose de très cru dans les images lors des scènes d'action.
Ouais, mais la caméra se balade partout, hein, ça s'en va, genre, elle part dans le ciel, ça se prend en dessous des roues des véhicules, c'est vraiment la caméra, on dirait que ça leur dérange pas qu'elle vibre, là, la caméra est tout le temps en mouvement, puis c'est souvent tout en plan séquence, puis c'est...
Mais je pense que ça fait partie du propos, justement, que ce soit un univers qui soit beaucoup plus... instable, puis que ce soit... c'est pas les belles chorégraphies à la Jackie Chan où tout est parfait, c'est comme vraiment t'as des bouts, mettons, t'as juste un aperçu de quelqu'un qui se fait rentrer un bout de miroir qui est tombé dans la tête, puis des trucs comme ça, puis c'est quand même vraiment intense. Et c'est un film, c'est ça, moi je trouvais que c'est un peu trop long, ça durait comme peut-être 2h30 ou je sais pas quoi, il y avait comme beaucoup de rebondissements, puis en gros, t'sais, c'est l'histoire d'une espèce de une assassin qui s'est faite doubler, puis que là, qui... En tout cas, c'est un truc comme ça. Il y a quand même beaucoup de rebondissements dans l'affaire. Il y a notamment, on découvre qu'il y a une espèce d'école d'assassins où les gens sont un peu... excusez l'anglicisme, mais brainwashed, là, et qui sont... je sais pas comment dire ça en français.
Lobotomisé.
Oui, c'est ça. Ben, c'est pas comme littéralement lobotomisé, mais tu sais, qui se font enseigner puis qui se font une nouvelle vie finalement.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, il y a toutes sortes de rebondissements comme ça. Mais j'ai trouvé qu'au final, c'était beaucoup de pirouettes pour pas grand chose au niveau du scénario. Parce que l'intérêt vraiment, c'est la prouesse technique des différentes scènes d'action. Et ils sont pas tous non plus en vue subjective. C'est ça, c'est la scène d'ouverture. Il y a d'autres moments aussi que c'est d'autres types de cascades. Il y a notamment une espèce de poursuite, scène d'action en moto dans un long tunnel super impressionnant là, où les gens comme se battent à coups de sabre pendant qu'ils conduisent une moto. T'as aussi une scène dans un bus qui évoque un peu la scène dans The Raid 2 d'ailleurs.
Ouais, vraiment. Moi, j'ai pensé à ça beaucoup pendant le film. Sauf que The Raid est un petit peu plus fluide au niveau de la caméra, là, ce qu'on disait, mais t'as vraiment des shots qui ressemblent dans The Raid quand t'as la caméra qui part à l'intérieur de l'auto, qui sort de l'auto, qui va sur le toit, qui après va dans l'autre voiture, là, la caméra qui... Tu vois les making-of, puis c'est comme les techniciens qui sont cachés dans les sièges, là, pour ça. Mais c'est un peu ce feeling-là, effectivement, ouais.
Donc, un gros film plein d'adrénaline pour lancer le festival, puis je pense que ça donnait le ton un peu. Au festival, puis sinon, mais finalement, c'est ça, là, j'ai que vu 12 films, mais moi, mes plus grosses surprises, en fait, puis je pense que c'est souvent le cas à Fantasia, c'est peut-être les plus petits films, parce que je suis peut-être moins public pour, mettons, tu sais, il y a beaucoup de gens qui attendent souvent les adaptations de manga ou les trucs comme ça. Là, j'ai vu le film de Takashi Miike, son 101e film.
Ah, tu l'as vu aussi, ouais?
Ouais, qui s'appelait Jojo Bizarre Adventure. Puis en fait, dans le titre, c'est marqué, dans le sous-titre du film, c'est genre chapitre 1.
Diamond is Unbreakable.
Oui, c'est ça. Donc, tu sens que ça s'inscrit aussi dans une. C'est comme le premier chapitre d'une plus grosse histoire. Et ça a adapté évidemment d'un manga à succès. Puis là, tu vois, ça m'a laissé complètement froid. C'est un film qu'on rigole beaucoup parce qu'il y a plein de choses, surtout si on n'a pas lu le manga comme moi, improbables qui se passent. Mm-hmm. T'as une espèce de scène d'action. Où t'as des espèces de... Ça ressemble à genre Small Soldiers, là. T'as comme
ouais, vraiment.
Des petits soldats de plastique là, qui prennent vie avec des petits tanks puis des petits hélicoptères.
Okay, ouais.
Chaque personne a une espèce d'esprit ou de totem animal, je sais pas comment dire ça, une grosse créature qu'ils peuvent invoquer en tout moment. Puis il y a plein de jokes parce qu'ils ont des coiffures toutes plus ridicules les unes que les autres. Puis le personnage principal, Jojo, justement, c'est à chaque fois, c'est une espèce, bon, c'est un étudiant très cool, un peu qui en a rien à faire de l'école, tout ça. Puis d'habitude, il est plutôt pacifique, mais à chaque fois qu'un vilain ou peu importe qui lui dit genre « Ah, ta coiffure est vraiment ridicule », c'est là que genre il s'arrête, puis là comme il se retourne, puis là c'est les gros effets de caméra, puis des effets spéciaux, tu vois un peu la colère autour de lui sous forme d'aura mauve ou je sais pas quoi. Donc c'est ça, c'est ce genre de film-là. J'imagine que ça plaît vraiment beaucoup aux fans, mais ça donne aucune place, je pense, aux nouveaux venus.
Ok,
là.
Ok, c'est drôle parce que Miguet, tu sais, ben, c'était pas un manga, mais c'était un jeu vidéo. Mais tu sais, lui, ouais. il y a 3-4 ans, là, à Fantasia, il y avait Ace Attorney.
Ace Attorney, c'était malade, ça.
C'était vraiment super. Tu sais, il y avait un gros fun noir, déjanté, décomplexé. Tu sais, c'était un courtroom, ben, comédie, finalement, là, avec des rebondissements complètement. Saugrenu, puis c'était vraiment contagieux, en fait. T'sais, moi, je connaissais pas particulièrement le jeu vidéo, je connaissais pas particulièrement l'univers comme ça, puis je trouvais que Mickey, finalement, avec quelque chose qui, a priori, était très loin de moi, m'avait complètement embarqué dans son délire, mais visiblement, c'est pas le cas avec son film de cette année.
Ben je sais pas ce que t'en as pensé, Rémi, là, mais...
Ben oui, ben en fait, je pense que l'univers de Ace Attorney était plus facile à embarquer dedans.
Peut-être, oui.
Parce que moi non plus, là, j'ai pas lu les mangas, puis je suis allé un peu parce que c'était Mickey, puis tu sais, ça, là, on va aller le voir à Fantasia, jour d'ouverture, on va se payer un trip. Puis écoute, moi, je suis un peu de ton avis, Paul, j'ai pas trouvé ça fabuleux là, comme film, mais je dirais que le meilleur contexte pour le regarder, c'était à Fantasia dans une salle con.
Ouais, c'est clair.
Puis avec, tu sais, ce qui était vraiment cool, c'est qu'il y avait énormément de fans du manga dans la salle. Puis c'est comme culte, là. J'étais allé chercher après, puis ça date de 87. Fait que c'est comme un vieux manga qui a beaucoup de cult following. Mm-hmm. Puis, tu sais, dans la façon qu'il présente les personnages, dans le film, c'est toujours, il présente les pieds, puis là, il présente les mains qui se retournent. Puis là, t'avais les fans dans la salle qui reconnaissaient les personnages, puis ils se mettaient à gueuler. Oh my god! Puis là, c'était le gros délire dans la salle. Puis c'était comme... C'était vraiment le fun, en fait, de participer un peu à cette ambiance-là. Tu sais, parce que avoir regardé ça chez moi, là, je me serais fait chier, là. Mais tu sais, c'est comme... C'est pas particulièrement... C'est bien réalisé, là, tu sais, c'est tight-là, c'est... Il sait ce qu'il fait, mais en même temps, c'est pas particulièrement spectaculaire comme d'autres de ses films.
Ouais, ouais.
Fait que, tu sais, ça fait la job, là. Tu sais, ça fait la job comme adaptation, là. Puis moi, je suis pas, tu sais, si familier avec les mangas tout court. Fait que, tu sais, c'est bien particulier comme ton, là. Mais c'est comme tu disais, il y a les cheveux, ils ont repris exactement les coiffures des personnages du manga. Ils ont vraiment reproduit un manga, mais en film. Mm-hmm. Puis je pense que pourquoi c'est peut-être moins intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est culte comme comique, fait que Mickey a sûrement essayé de suivre un peu plus l'histoire qu'un Ace Attorney, que tu sais, Ace Attorney, c'est un jeu vidéo, fait que tu faut que t'écrives une histoire pour que ça fonctionne.
Ouais, c'est
tandis
ça,
que
c'est
le manga, ben il fallait vraiment qu'il l'adapte comme tel parce que c'est comme un mandat, là, il faut vraiment que si tu dérapes trop, ben à un moment donné, le public suivra pas, là.
Ouais.
Ouais, mais c'est l'effet, c'est le piège Watchmen aussi, là, comme
être trop
fidèle, c'est pas nécessairement faire plaisir aux fans non plus.
Effectivement.
Mais bon, mais tout ça pour dire en fait que moi, c'est peut-être dans les plus petits films que j'ai eu des grandes surprises, surtout que souvent moi en fait, parce que je suis quand même assez occupé dernièrement, donc j'y vais vraiment quand je peux y aller, fait que j'attrape le film qui joue le plus vite possible, parce que ça donne bien. Et un que je voulais souligner en fait, c'est un film d'animation chinois. J'irais pas jusqu'à dire une révélation, mais vraiment un très beau petit film qui s'appelle Have a Nice Day de Liu Jian. Et c'est vraiment particulier comme film. C'est un tout petit film là, qui dure comme peut-être 1h15. Et puis, c'est comme un mélange. C'est ça, c'est clairement un cinéaste qui tripe sur son Tarantino, sur les frères Coen, sur ces influences-là. T'as même l'espèce de plan de la Tarantino, t'sais, point de vue du coffre de la voiture pendant que deux personnes t'sais, regardent. Là. Fait qu'il y a clairement des influences assumées. Et ça se passe tout dans une journée.
Juste dire, c'est tellement drôle, tu sais, que Tarantino, t'sais, s'inspire de cinéastes de Hong Kong, puis de cinéastes japonais, puis tout ça. Puis là, genre, il fait des films pis, qui sont tellement des gros blocs. Puis là, c'est drôle parce que là, ça fait full circle un peu, parce que là, t'as l'impression qu'il y a des cinéastes japonais ou de Hong Kong ou t'sais, chinois ou autres qui sont inspirés par Tarantino, qui est inspiré d'eux. Là. Il y a comme quelque chose de tellement méta là-dedans. En tout cas, bref,
ouais. Surtout, non, mais c'est vrai. Puis même, t'sais, Kill Bill, c'est encore plus flagrant quand tu vois vraiment des grosses inspirations de Kill Bill, tu sais, qui est comme sa lettre d'amour au
cinéma. Lady Snowblood, puis ben, il y en a plein d'autres. Là. Mais ouais,
non, mais ouais. Aussi ceux que. Les films qui ont été influencés par Kill Bill aussi. Là,
c'est ça, exactement. C'est ça que je veux dire. Hein. C'est que même, tu sais, ça se trouve, les genres de réal qui ont fait genre Lady Snowblood, ça se trouve, eux sont réinspirés par Kill Bill. Tu sais, il y a comme quelque chose qui s'alimente de façon saine un peu, là, je trouve. Mais ouais.
Et Avenaisé, c'est ça, c'est une espèce du. C'est toujours un humour un peu décalé. C'est comme tout le temps des y a beaucoup de plans fixes en fait parce que c'est un film vraiment à petit budget j'ai l'impression mais ce n'est pas du tout une faiblesse en fait là, il utilise très bien son espèce de cadre donc c'est beaucoup de plans fixes pis c'est beaucoup de silence puis de moments de malaise l'animation ça ressemble ça donne un peu un feeling comme Beavis and Butthead là. C'est un peu cru comme une animation mais c'est ça c'est avec en gros ça se passe dans une journée puis c'est plein une galerie de personnages, toutes des espèces de malfrats de petite envergure qui font des fois des bons coups, mais des erreurs vraiment idiotes à d'autres moments. Puis, dans le scénario, t'as aussi comme tout le temps plein de coïncidences, t'as des gens qui se croisent, puis des trucs justement un peu à la Pulp Fiction. Mais c'est encore plus ironique quand t'es comme en Chine, puis il y a comme plus d'un milliard de personnes. C'est quoi les chances qu'il y ait trois accidents au même endroit sur l'autoroute? mais c'est, ça marche super bien comme film. Il y a vraiment des espèces de surprises en fait qu'on s'attend pas nécessairement à trouver notamment à un moment donné il fait une espèce de cauchemar le gars puis c'est comme des images réelles finalement fait que c'est comme l'inverse là. C'est des fois t'as un film avec des acteurs puis il y a un cauchemar puis c'est en animation ou il y a un moment où ils sont dans un vieux motel plus ou moins entretenu puis là ils montent dans un ascenseur puis l'ascenseur est super long fait que là entre deux étages c'est comme s'ils s'imaginent qu'ils sont dans un karaoké. Fait que là, t'as une longue scène de karaoké de genre 3-4 minutes, que c'est comme une espèce de clip qui parodie un peu les vieux films de propagande de l'époque Mao, là, avec des espèces de fermières contentes. Je sais pas si vous voyez un peu l'imagerie, là. Puis c'est ça, puis là, t'as cette longue scène-là, puis là, ça revient à comme, il est finalement rendu au troisième étage. Fait que c'est une espèce de, c'est ça, un humour décalé, puis un film vraiment qui se joue dans la longueur. C'est plus ça avance, puis plus c'est drôle, finalement. Mais ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais moi je trouve que c'est un beau petit bijou.
C'est de l'animation 2D et dessinée. Ouais. Okay.
C'est très. C'est comme les aplats en fait, c'est comme des couleurs très plates. Okay. Il n'y a pas de dégradé. Là. Mais c'est ça, si vous allez voir des images, ça, c'est un style particulier. Mais ça marche vraiment bien avec le récit. Puis c'est ça, puis c'est une écriture qui sans être révolutionnaire, c'est assez efficace. Là. Sinon, Rémi, toi, tu avais un film que tu as absolument parlé, je pense que c'était ta grosse surprise jusqu'à présent.
Il y en a beaucoup, en fait, mais ouais. En fait, je voulais juste faire le pont parce que je me suis tapé pas mal toutes les bandes-annonces avant le festival.
Oui.
Puis il y avait deux films qui comparaient, en fait, le film à Pulp Fiction. Mm-hmm. Il y avait Have a Nice Day, puis il y avait l'autre qui est Low Life.
Ouais.
Puis je suis allé voir Low Life, puis... En fait, il n'était pas sur ma liste au début, puis ça a été un peu suite aux échos des programmateurs que je suis allé, puis c'était vraiment fabuleux. C'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. C'est un autre... C'est ça, là, c'est dans la veine de Pulp Fiction encore, là. Mais en gros, c'est un crime movie avec beaucoup d'humour, avec du gore. C'est un gros melting pot de bien des genres qui s'entrecoupent.
C'est un film américain? C'est un film de quel pays?
Ouais, c'est un film américain. Il y a entre autres, vous avez peut-être vu, si vous allez à Fantasia, il y a des gens avec des t-shirts avec un lutteur mexicain dessus. Puis ça vient de ce film-là, des t-shirts rouges, là. Ils en ont donné à la tonne, là, pendant le screening. Mais en gros, c'est un film de point de vue, à la Pulp Fiction où on va changer de point de vue de personnage, mais toujours avec un retour dans le temps. Où là, on va voir une histoire, la même histoire, mais sur un autre point de vue, pour apprendre à connaître les différents personnages. Fait que, entre autres, dedans, ça, t'as le lutteur mexicain avec sa blonde qui est enceinte. Il y a la mère de cette fille-là qui travaille dans un motel, qui a besoin d'un rein pour son mari. Il y a un mec qui sort de prison, qui s'est fait tatouer une croix gammée dans la face, là. Mais genre, en gros dans la face, là. C'est une méga croix gammée dans la face. Fait que son ami qui est comptable, mais qui se fait embourber dans un plan de à la con, là, de crime, là. Il y a un boss mafioso qui travaille dans un restaurant qui est... c'est ça, là. Fait que c'est comme toute cette... Ce ramassis de personnages-là, mais tu changes d'un... En fait, c'est divisé par chapitre, fait que t'es avec un personnage différent chaque fois, puis tu reviens en arrière dans l'histoire, puis tu vois leur point de vue dans l'histoire. Fait que le personnage qui avait l'air vraiment d'un con dans le premier segment, tu le découvres au deuxième, puis tu comprends pourquoi il est épais dans le premier segment, qu'est-ce qui a mené à ces réactions-là complètement idiotes. Puis c'était vraiment fabuleux, là. Puis c'est une expérience de festival parce qu'il y avait... tu sais, au niveau des punch comiques, au niveau des punch graphiques aussi, parce que c'est un film avec beaucoup d'humour, mais quand il y a des gens qui se font tuer, ben c'est le plus violent possible, avec des têtes qui éclatent, puis du gros gros gore, une trame sonore électro un peu weird. C'était vraiment ça, c'est une des grosses surprises du festival. Puis ça m'étonnerait pas que ça devienne un peu culte autour de Fantasia, là, que ça devienne un peu un... Ben, c'est ça, là. Tu sais, il y a toujours le film que tu te souviens à la fin de l'année, puis je pense que celui-là, il est dans l'air pour ça. Je sais pas, par contre, s'il repasse, j'espère, sinon, essayer de le rattraper. Ça s'appelle Low Life, c'est vraiment... C'est ça, là, c'est un des gros, gros coups de cœur. Ah, puis là, je suis curieux, c'est quoi le film que j'avais dit que je voulais parler, Paul? Parce qu'il y en a tellement beaucoup...
Oui, c'est ça. C'était Low Life, ouais.
Parce qu'il y avait aussi, tu sais, Brigsby Bear, que j'ai vu, que j'ai vraiment adoré, là, ça, c'était dans mon top aussi. Qui est produit par Lonely Island, entre autres.
C'est ça qui sort en salle, hein? Je pense qu'il vient de sortir au forum, il me
Ouais,
semble.
c'est fort possible en fait qu'il soit en salle celui-là. Souvent, Fantasia, t'as l'exclusivité, tu sais, quelques jours avant.
Ouais.
Mais Brigsby Bear, c'est pour vrai, j'ai tellement pleuré dans ce film-là. Là. Ça a été une journée de larmes parce que juste avant, en plus, j'avais vu Abou, le documentaire de Arshad Khan, qui est vraiment, vraiment magnifique, là, puis qui est une belle preuve que Fantasia, en fait, on n'est pas juste dans le cinéma de genre. On présente du cinéma. En marge, mais du cinéma aussi dramatique, puis du cinéma qui tu sais, qui a des messages, puis que c'est pas juste des tripes de sang, là, tu sais, comme du monde pense que c'est horreur seulement, ou tu sais, y a vraiment d'autres affaires. Mais cette journée-là, là, à bout, j'ai pleuré comme un bébé, puis après ça, Brigsby Bear, là, c'est tellement touchant, mais c'est tellement drôle en même temps, là, c'est vraiment... C'est l'humour de Lonely Island, le comédien principal est fabuleux, super attachant. En gros, le synopsis, c'est un gars qui vit dans un genre de capsule sous terre, là, tu sais, un genre de dôme, parce qu'il y aurait quelque chose dans l'air à l'extérieur. Puis tu te rends vite compte, en fait, que lui est dans la trentaine, là, mais il est quasiment un enfant parce qu'il n'a pas vraiment le contact avec le monde extérieur. Mais tu te rends compte, c'est comme un twist de début de film, là, il faut comme le savoir quand même un peu. Mais que c'est en fait ses parents, c'est pas ses vrais parents, puis il a été kidnappé quand il était super jeune. Puis pourquoi il est enfermé là, c'était justement pour le garder pour eux. Puis son contact avec la réalité, en fait, c'est qu'il recevait à toutes les semaines une cassette VHS d'un show télé qui s'appelle Brigsby Bear. Puis en fait, il est comme c'est son seul contact avec la réalité. Fait que Brigsby Bear, c'est sa vie, là. C'est la seule chose qu'il connaît, c'est la seule chose qu'il parle, fait des études sur la profondeur de Brigsby Bear, sur le côté scientifique de Brigsby Bear. Toute sa chambre immeublée en Brigsby Bear. C'est une espèce de show, là, lame pour enfants, là, tu sais, avec quasiment un télétobisme années 80, là.
Ah ouais, ok,
c'est. Fait que c'est comme, c'est ça, puis tu vois, dans sa chambre, il y a des centaines de VHS de ça, de tous les épisodes. Fait que chaque semaine, il reçoit son épisode par la poste, c'est de ça qu'il vit. Puis là, ben, il finit par avoir son contact avec la réalité, tu sais, il a jamais vu de cinéma ni de télé. Puis, en tout cas, je vous garde des surprises pour la suite, disons, mais c'est...
Le titre, c'est Grizzly Bear, c'est ça?
Brigsby, avec un B.
Ah, Grizzly.
Brigsby Bear, ouais.
Brigsby. Mais c'est drôle, ça fait tellement penser. On dirait que ce film-là a été conçu. Tu sais, parce que ça, le cinéaste Dave McCary, il était aussi avec l'équipe de Saturday Night Live, comme les Lonely Island. Puis j'ai l'impression, tu sais, qu'ils ont juste comme. Ils écoutaient Room en fumant un joint. Puis là, ils se sont dit, hey, on pourrait vraiment se faire ce film-là, mais comme drôle.
Ah ouais, c'est ça.
On dirait que c'est genre l'équivalent, genre Room quand t'as fumé un joint.
Ok.
Ouais, ça... quasiment.
Non, non, c'est... Vous me le vendez.
Non, mais moi, je l'ai pas vu, mais de la manière que Rémi en parle.
Mais c'est drôle, mais c'est vraiment touchant, là, pour vrai. C'est les rôles sont bien joués, mais les personnages sont vraiment attachants, puis c'est, ça marche vraiment bien, là. Puis ouais, ben c'est ça, puis c'est dosé avec de l'humour un peu corrosif, là, tu sais, t'as la touche Tony Island, mais ça reste que c'est ça, c'est plein de cœur, ce film-là, puis ouais, à la fin, là, j'ai braillé, puis tu regardes, tu sais, je regardais dans la salle, tout le monde avait les larmes aux yeux, là. Ça marche vraiment bien. Puis il y a même le petit caméo de Andy Samberg, là, tu sais, Lonely Island, ils ont leurs apparitions,
ben
là.
Oui.
Fait que c'est ça, puis tu sais, peut-être le dernier highlight, là, pour conclure Fantasia, parce que je pourrais tout vous faire le résumé, mais j'en ai 19, là, mais le dernier, là, que je peux lui donner un highlight, c'est quand même Game of Death, qui est...
Ah ouais, tu l'as vu, ouais.
Ouais, un film québécois, c'est réalisé par les deux mêmes personnes qui ont fait Polyvalente, là, Sébastien Landry puis Laurence Bazemoret. Puis c'est, tu sais, ça se résume vite, là, c'est Jumanji gore, c'est vraiment ça. Il y a même, puis c'est super assumé parce que dans une des premières shots du film, il y a un poster de Jumanji en background. Il y a beaucoup de références à la pop culture dans le film, puis c'est méga méga assumé. Puis tu sais, en gros, la façon que ça a été fait, ils l'ont vendu comme concept de web-série en France, mais ils savaient en tournant la web-série que c'était un long-métrage, tu sais, puis qu'ils voulaient faire un long-métrage. Fait que ça a été comme une excuse avec Black Pill, qui est comme une plateforme française. Mais tu sais, pour vrai, en regardant le film, je sais pas comment, à part de juste couper en bout, puis faire une web-série, c'est un film, là, tu sais, c'est un long-métrage.
Ouais.
Puis tu sais, la prémisse, c'est que c'est une gang d'amis, sont dans un chalet, là, à grosse débauche, puis ils trouvent un jeu de société qui s'appelle Game of Death. Puis pour jouer, il faut que tu mettes ton doigt dessus. Puis en gros, le jeu, il pique tout le monde. Puis ça récupère une petite goutte de sang. Puis là, il y a un counter au milieu du jeu qui se déroule. Puis ça tombe sur 24. Puis 24, en gros, ils s'aperçoivent que c'est le nombre de personnes qu'ils doivent tuer pour pouvoir gagner la partie. Puis s'ils tuent personne, à chaque heure, il y a la tête de quelqu'un qui explose. Fait que
c'est comme Jumanji puis Battle Royale.
Battle Royale, c'est
vraiment
ça.
C'est tu sais, c'est, je veux dire, c'est une prémisse simple, puis là on s'entend que c'est pas genre le film du siècle, mais ça marche, là. Ça marche tellement bien, là. Puis tu sais, là, que t'as 24 kills dans le film, là. Tu sais, tu l'attends, là. Fait que t'as le counter toujours dans la tête, puis il te rappelle toujours le counter, combien il en reste pour pouvoir gagner la partie. Puis dans ce petit groupe-là, of course, t'as des têtes fortes qui prennent le dessus, d'autres qui veulent pas tuer personne, puis la marde pogne dans le groupe d'amis. Ouais. Des gros moments gore, des personnages, des sous-personnages qui sont là 10 minutes, mais qui rajoutent tellement une belle couleur au film. Puis il y a une des scènes, je peux pas vous le dire, genre, je vais vous dire un peu ce que c'est, mais ça arrive dans le troisième acte, une des plus belles scènes que j'ai vues depuis, genre, fucking longtemps au cinéma. Mais en gros, le film, il est en anglais complètement, puis il assume le côté anglophone, puis t'as une grosse scène forte qui est doublée avec une chanson culte québécoise pop. Mais tu sais, c'est à travers le film qui est en anglais, puis c'était malade, là, tu sais. Puis à Fantasia, en plus, une toune que tout le monde connaît, fait que dans la salle, t'as la salle pleine, c'est la première du film, 700 personnes qui chantent en même temps. je vous garde le titre de la toune parce que c'est un peu une surprise, là, tu t'attends juste pas à ça, mais c'est genre, puis c'est une scène, là, qui est grosse mise en scène avec de l'animation, avec plein de trucs, tu sais, c'est une scène, là, épique, là, c'est la scène du film, vraiment une belle scène de cinéma. Fait que tu sais, juste pour se rendre à ce point-là, moi j'étais comme, j'en revenais pas, là, j'avais les frissons dans la salle, là, c'est magique, magique, là.
Bon,
fait que Game of Death, en tout cas, je sais pas comment ça va être distribué, par exemple, parce que c'est un peu le problème que les droits appartiennent à la web-série, puis ils peuvent pas vraiment vendre le film, fait que, tu sais, ils en parlaient après le film, fait que je sais pas comment ça va sortir, mais je suis sûr qu'ils vont se démerder, parce qu'il faut que les gens voient ça, là, c'est vraiment hot, là.
Ça va finir peut-être en torrent autorisé, ou je sais pas.
Ouais, c'est ça. Peut-être. voilà, ben tu sais, comme je vais conclure là, je pourrais en parler encore longtemps, mais ça c'est là.
Super, donc Fantasia, ça se poursuit
jusqu'au 2 août. Il reste un gros morceau, je pense, hein?
Ouais, non, c'est ça. Et évidemment, on va parler encore de Fantasia au prochain podcast. Mais cette semaine, sinon, j'ai vu un film de guerre.
Je l'ai vu aussi.
Un film de guerre par un très bon cinéaste, un film de guerre techniquement impeccable, qui prouve quand même que même dans le monde des studios d'Hollywood, on est capable de faire des propositions audacieuses avec une bande sonore excellente et plein de qualité. Donc, évidemment, on parle de War for the Planet of the Apes.
Ouais.
De Matt Reeves.
T'es sérieux? T'es sérieux?
Ouais.
OK. Oh my God.
Non, mais
moi, j'étais prêt. Ouais, rapidement, parce que là, moi, j'attendais le Dunkirk. Là. J'ai des shit à dire sur Dunkirk. Là.
C'est une belle prémisse, Paul. C'est bien lancé. Hey, mais en plus, les deux premiers sont tellement bons. Pour vrai, cette franchise-là, c'est la franchise vilain petit canard, là, ça a pas de
c'est
sens.
Ça, c'est ça, c'est comme le secret le mieux gardé à Hollywood, mais c'est pas vraiment secret.
Non, mais c'est un peu quand même, c'est vrai que ça fait un peu office de ce... C'est-à-dire, on dirait que le marketing se fait quand même relativement tout seul, puis...
C'est pas au même niveau que justement un Marvel ou qu'un Pirate des Caraïbes.
C'est comme... meilleur, là.
on dirait qu'il nous est moins crissé dans le fond de la gorge, là, genre, c'est le film de l'été, allez voir ce film-là, puis là, genre, tu sais, on dirait qu'il est comme... C'est plus low-key d'une façon étrange.
Il y a du monde qui pensait que c'était mort. Ben, tu sais que la franchise était censée être morte, surtout après que Burton y a touché. Puis là, on dirait que le monde n'y croyait plus du tout. Puis à chaque fois qu'il y en a un qui sort comme bon, un autre. Puis là, tu le check, t'es comme, hein, mais c'est bon. Genre, tu sais, moi, j'ai pas vu le nouveau, mais je me suis fait dire que c'est un des. En fait, ben, j'ai hâte d'entendre ta critique, mais j'ai lu que c'est comme aussi bon. Puis même du monde qui dit que c'est le meilleur des trois. Mais moi, les deux premiers, j'ai vraiment aimé ça. Là.
Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je me désabonne facilement à beaucoup de gros blockbusters. Puis celui-là, c'est une franchise que j'ai quand même suivie puis que j'aime bien. Je veux dire, je suis pas le premier à courir en salle puis à saliver à fond la caisse, mais comme je vais finir par l'attraper puis je vais finir par être vraiment satisfait, j'ai l'impression, de sur ce quoi je suis tombé. Fait que je suis quand même curieux d'entendre, mais grouille là, après ça, on parle de Dunkirk.
Non, c'est ça, mais on va peut-être pouvoir en parler plus en profondeur lorsque vous l'aurez vu, peut-être. Mais c'est peut-être secrètement le meilleur film de l'été, en fait.
Carrément.
Et il y a comme une grande progression entre les trois films. Tu sais, le premier film, c'est vraiment les humains qui créent donc des singes intelligents. Le deuxième film, c'est genre c'est entre les deux. C'est vraiment comme on suit d'un côté les humains, on suit d'un côté les singes, dans lequel il y a un deuxième leader qui veut prendre la place de Caesar. Koba, et ça crée une espèce de division au sein de l'Empire des singes. Et le troisième film, on est vraiment du point de vue des singes, et en fait, les humains sont accessoires. Et là, c'est vraiment, dans le fond, eux qui tentent de survivre et de participer à une espèce d'exode pour traverser le désert et quitter, en fait, la zone trop peuplée de la jungle dans laquelle ils sont. Il y a beaucoup, beaucoup de ça, de références bibliques. C'est un film vraiment... C'est comme, finalement, un opéra plus qu'autre chose. La majorité du film est muette, parce que, justement, les singes, j'en ai très peu qui parlent. Ooh. La plupart, c'est des signes. Le langage des signes, il y a des sous-titres. Mais même ça, en fait, il y a très peu de dialogue. Donc, c'est vraiment une espèce de cinéma classique à l'ancienne, avec une trame sonore de Michael Giacchino absolument excellente.
Mm-hmm.
Et c'est un film, bon, c'est pas parfait. Notamment, je trouve que c'est un peu bizarre la structure. L'antagoniste principal, en fait, c'est Woody Harrelson qui joue sa version, en fait, du Colonel Kurtz d'Apocalypse Now. Référence qui est comme plaquée partout dans le film. Il y a notamment un tag à un moment donné dans un tunnel qui dit Apocalypse Now. Donc ça, je trouve que des fois, c'est un peu too much, hein, comme comme référence, là. Puis c'est un peu facile, peut-être, mais tu sais, t'as vraiment t'as des moments de cinéma, c'est comme des moments de bravoure, là. T'as notamment une espèce de... un squad, à un moment donné, d'humains qui vont dans la grotte où sont cachés les singes, puis c'est comme dans la nuit, puis là, ils ont comme des lasers verts au bout de leur gun, puis là, ils avancent. Et le montage de cette scène-là, avec la musique de Giacchino, c'est vraiment quelque chose à voir. Ça donne des frissons. Donc, une très grande réussite. J'aime quand même mieux le premier opus, je pense. Je pense que c'est peut-être aussi la surprise qui causait ça. Mais tu sais, le moment dans le premier film où t'as Caesar qui finalement prononce un gros non, puis que comme tous les singes se retournent, puis là, tout le monde arrête parce que c'est comme le singe est devenu finalement l'égal de l'homme, dans un sens. Il a la parole. Donc, c'est très intéressant. Et en gros, dans ce film-là aussi, c'est qu'il y a un espèce de virus qui court chez les humains qui leur font perdre l'usage de la parole. Donc, qui est vraiment plus humain que l'autre, ça reste un gros débat, en fait. Et c'est ça, c'est plein de références, une grosse allégorie qui n'est pas nécessairement novatrice, mais qui marche totalement. Tu sais, c'est vraiment un film. C'est une espèce de film sans grande faute. C'est peut-être juste qu'il manque un petit quelque chose. Moi, je pense que le film aurait eu avantage à s'appeler Battle for the Planet of the Apes plutôt que War, parce qu'on sent vraiment qu'on pose encore les pions vers un autre récit. Tu sais, on est loin de la grande guerre épique, là. C'est plutôt comme un conflit qui mène à quelque chose. Mais vraiment, ça vaut la peine d'aller le voir. Moi, je trouve que c'est secrètement le meilleur film de l'été, en fait. Mais l'autre gros film
Ben
de
ouais,
guerre,
là,
en fait, de cette semaine.
c'est ça, tu viens de faire ton Armon White, là. Genre, War of the Planet of the Apes est meilleur que Dunkirk. Est-ce que c'est ça
C'est
que tu
ça.
comprends? Allons dans Dunkirk.
C'est
Allons-y,
ça.
allons-y.
L'autre gros film de guerre impossible de passer à côté, c'est Dunkirk de Christopher Nolan.
Ouais.
Nolan qu'on ne présente plus, son 10e long métrage. Peut-être le cinéaste qui a le plus de liberté en ce moment dans le système hollywoodien. Il fait vraiment ce qu'il veut, il a carte blanche. Si ça lui tente de tourner avec des caméras IMAX dans des vrais avions, il va le faire. Ce qui donne donc évidemment un côté au film très impressionnant. T'sais, il a vraiment utilisé des vrais bateaux, des vrais avions. Il y a comme plein de. Tu sais, le film dans les détails est absolument impressionnant. Je suis vraiment curieux déjà de voir les making-of de ce film-là. Et en gros, le pitch du film, c'est très simple. Ben, en fait, c'est sur la plage de Dunkerque.
Dunkerque en France, ouais.
Et c'est 400 000 hommes, dans le fond, qui sont en attente. Parce que là, dans le fond, l'ennemi, donc les Allemands, tout ça, les ont encerclés d'à peu près partout. Et leur seule solution, vraiment, c'est de s'en aller. Et tu sais, c'est vraiment comme c'est pas très loin de la côte de l'Angleterre, dans le fond. Donc, c'est ça, c'est l'espèce de. Tout le film, c'est est-ce qu'ils vont réussir à sauver des gens? Et ça se passe comme sur trois niveaux, sur le sol, sur l'eau et dans les airs. Donc, une espèce de montage alternatif, mais également aussi qui est compliqué narrativement parce qu'il y a des retours en arrière, différents points de vue.
Ben c'est ça, c'est qu'ils utilisent finalement ces trois histoires en parallèle là pour quand même jouer sur le temps. En tout cas, on va y venir là, plus
Mais
quand on va être dans
le même type d'exercice qu'ils pouvaient faire, par exemple, dans Inception. Donc, c'est ça, 13 beaucoup sur le montage et sur le temps.
Ouais, tu sais, puis c'est un petit peu la continuité d'une certaine réflexion sur une certaine relativité du temps, tu sais, que peut-être Interstellar avait amorcé. Parce qu'effectivement, quand tu es dans un fighter jet, une minute pour toi, ça peut effectivement valoir, tu sais, c'est relatif dans le sens où ça peut valoir 1 heure pour le soldat qui est sur la plage en attente. Soit de se faire
Bah, puis
canarder ou de se
aussi,
faire secourir. Donc, tu sais, ça en soi, c'est un quoique un peu superflu, là, peut-être, tu sais, ça rajoute quand même une certaine couche intéressante au film, là, sans quoi peut-être on aurait été carrément dans le banal pour moi, là, personnellement. Mais bon, peut-être que je devance la
Ben non, mais en fait,
discussion.
ça. Ma question pour toi, Pascal, pour commencer la discussion, c'est au-delà de la production qui est indéniablement impressionnante,
Ouais.
qu'en est-il du film? Est-ce que
Bah, c'est ça.
tu trouves que c'est un film porteur? Est-ce que c'est un film qui t'a impressionné, qui t'a jeté à terre? Est-ce que c'est le chef-d'œuvre annoncé?
Ben, c'est ça. Tu viens de le dire. Chef-d'œuvre annoncé. Parce que je crois qu'on avait besoin d'un gros film de l'été. Puis Nolan arrive comme ça, en pompe, avec. Ben, en pompe, en même temps, je dis ça, mais c'est son film le plus court depuis Following, là. C'est un film de je dis seulement en guillemets, mais comme je pense, c'est 1h40, quelque chose comme ça. Donc, relativement succinct. Puis, vraiment, les échos qui menaient vers le film étaient complètement élogieux. Bon, je sais que ça vaut ce que ça vaut, mais, tu sais, les agrégateurs de critiques, qu'on les aime ou non, ils sont là, ils sont dans le décor, puis ils sont là quand même pour façonner une certaine attente. Moi, j'avais vu. Je pense que c'est 94 sur Metacritic, puis là, t'es comme, ah, oh, wow, il y a quand même quelque chose là. Du moins, il y a un discours critique carrément élogieux qui est construit autour de ce film-là.
Aux États-Unis comme au Québec, d'ailleurs, Mediafilm a donné la cote
C'est
2,
ça, c'est ça.
remarquable, qui est quand même très rare comme cote.
Ouais. Puis ça me surprend, en fait, qu'au Québec, on ait autant embarqué, un peu de la même façon, le même commentaire que je pouvais avoir sur un Lincoln, parce que, moi, dans Dunkirk, il y a un rapport au patriotisme qui, bon, ça, c'est un biais complètement assumé et très, très, très personnel, mais qui, moi, je trouve plate à mourir, en fait, puis qui me rejoint pas du tout dans mon idéologie personnelle. Encore une fois, c'est un biais. Mais moi, c'est vraiment le film, comme expérience, me gagne, mais le film coule, sans faire de mauvais jeu de mots, où ou du moins est plombé, canardé, justement, je vais continuer, mais par des esti de one-liner de Kenneth Branagh ou des personnes. Tu sais, vraiment, le film implose à gros coups de patriotisme daté et mal placé.
Donc, Nolan n'arrive pas à sauver son film.
Non, mais ben. Pour vrai, puis évidemment, on révélera pas la fin, mais et une finale qui a un gros coup de musique, là, mièvre, qui enlève toute ambiguïté possible sur le discours de la guerre, parce qu'il y a une ambiguïté, je veux dire, c'est des soldats en attente qui se font... qui sont justement, il y a quelque chose de tellement ambigu dans qu'est-ce que vaut une vie dans un contexte comme ça. Je veux dire, on a tout pour créer une œuvre qui pourrait potentiellement être un peu cynique ou du moins avoir un discours qui est très, très, très conflictuel sur le pourquoi de la guerre. Mais non, on dirait qu'on finit, et encore une fois, je ne révélerai rien, mais on finit sur une espèce de note Spielbergienne, sous Spielbergienne, bordel. Genre, j'ai vraiment, là, j'en suis ressorti déçu, est un euphémisme, là, je suis en rogne contre ce film-là, complètement. Et il est tombé de très haut parce que le début est sublime. Non, mais le début est sublime. On est donc dans une certaine poésie, dans une abstraction de la guerre. L'ennemi sans visage est abstrait. Il y a quelques... Parce que les Allemands, on les voit jamais aussi. C'est quand même une des nouveautés.
Parce que ça, la proposition est quand même assez originale. C'est que c'est un film de guerre qui n'est pas sur le conflit en tant que tel. C'est plus sur un bataillon, des milliers de gens qui doivent être évacués. Donc déjà là... Sur papier, le pitch du film est quand même intriguant.
Oui. Puis aussi, il y a comme une genre de... Il y a certains... Bon, quand même, pour être bien honnête, il y a certaines choses qui fonctionnent très bien dans le film, vraiment. Puis c'est ça aussi, je pense que là, les gens sont polarisés. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre ou un navet? Non, je veux dire, la vérité, en tout cas, à mon œil, il se retrouve que c'est très entre les deux, quand même, là, parce qu'il faut rendre à César ce qui vient à César. Je veux dire, la mise en scène de Nolan dans ce film-là, puis il y a plein d'affaires qui sont bonnes, puis j'y reviens. Puis, justement, dans les affaires qui sont bonnes, il y a comme une genre de relation d'amitié quasi muette, tu sais, entre deux soldats. Puis aussi, le personnage principal, qui fonctionne très bien, justement, et le personnage principal, je mets ça entre gros guillemets, parce que c'est un film choral, là, quand même, c'est ça qui en ressort, est un personnage qui est simplement en instinct de survie. Tu sais, il n'y a pas une genre de... Il n'y a pas une femme qui l'attend chez lui, là, comme un autre film, peut-être plus mineur, aurait pu faire. Où il n'y a pas vraiment de flashback sur qui ils sont au-delà d'être des soldats qui essaient de survivre. Ça, c'était le bienvenu quand même. C'était très apprécié.
Il y a quand même Tom Hardy qui joue un des pilotes qui fait un peu figure d'héros idéal. Là, oui. On dévoilera pas trop de trucs,
on
mais
dévoilera
comparé
pas trop
justement,
de trucs, mais il y a de l'ambiguïté.
Il est pas en mode survie. Là,
exactement.
Quand même.
Exactement.
Avec son masque dans son avion, est-ce qu'il fait la même voix que Ben?
C'est
non,
drôle.
Encore une fois, c'est ça. C'était Tom Hardy qui, pour moi, est un des meilleurs acteurs au monde en ce moment. Là, je suis un très gros fan.
Mais il joue avec ses yeux, là. C'est intéressant.
Ouais.
C'est une
y a
bonne
peu
performance.
Près, il y a comme peut-être une quinzaine de lignes de dialogue dans tout le film. C'est quand même un des principaux rôles. Puis c'est pour dire aussi que les autres parlent peut-être encore moins que lui, finalement. Et à 99%, il est dans son cockpit, comme dans le film Locke, il était à 99% derrière le volant d'une voiture, là. Il est comme derrière un comment on appelle ça, un guidon, un levier, je sais pas trop.
Dans son avion.
Ouais, c'est ça, dans son cockpit. Donc, on dirait qu'il se donne des défis, genre, comme qu'il est le prochain là, dans un avion pendant tout le film, c'est juste sinon, tu sais. Je me demande même s'il n'a pas dit à Nolan, mettons, coupe tel flashback parce que je veux juste être dans l'avion, tu sais, je sais.
C'est ça, puis tu sais, c'est un pilote de chasse entraîné qui réfléchit, qui agit comme un pilote de chasse entraîné. Puis c'est vraiment correct. Non, moi, j'ai pas de problème à ce niveau-là.
Ben, en général, la direction l'acteur est très bonne, ça, puis le côté animal, justement, des soldats qui font tout pour survivre, c'est quand même, ça marche très bien. J'aime beaucoup le fait que le casting, c'est tous des jeunes qui se ressemblent, tu sais, sont pratiquement interchangeables, en fait, puis c'est un peu le propos du film, tu sais, c'est tout des... Puis évidemment, vu que c'est l'armée, vu que c'est la guerre, tout le monde est rasé de près, tout le monde a les cheveux courts, tout le monde a à peu près le même âge, tu sais, une vingtaine d'années, tout ça.
Ouais, c'est ça, exact.
Donc, ça donne vraiment comme une espèce de bataillon anonyme. La direction photo est hallucinante aussi.
Puis, tu sais, une expérience cinéma aussi, je dirais, comme comme tout le monde va vous le dire, essayez de le voir sur le plus gros écran possible. Ben, parce que, comme je disais tantôt, moi, je l'ai vu au clap, fait qu'il y a peut-être aussi cet enchantement-là qui était peut-être pas autant au rendez-vous que si je l'avais vu en 70 mm max. Mais au final, un film, c'est un film, quand même. T'sais, je veux dire, je suis quand même de cet avis-là. Bon, je suis pas en train de dire qu'on peut regarder nos films n'importe où, sur un laptop ou sur son téléphone. Là. Mais tu sais, je veux dire, quand même, entre une méga grosse salle ou une grosse salle, je suis quand même capable de discerner le bon du mauvais. Puis tu sais, je pense pas que j'aurais adoré Dunkirk si je l'avais vu sur un écran 4 fois plus gros. Mes critiques demeureraient, là, c'est évident. Mmh. Et c'est ça, quelles sont-elles, mes critiques? Ben encore une fois, non, je vais quand même continuer à concéder, là, parce que vraiment, après ça, sinon je peux juste me lâcher là sur le film, là. Mais... Il y a aussi, je pense qu'il y a un pari que Nolan a gagné, c'est de réussir à faire un film de guerre familial, dans un certain sens. Il n'y a pas de gore, on fait facilement la comparaison avec « Ah, c'est un peu comme la première scène de Sauver le soldat Ryan, mais en tout un film. » Non, ouais. Bitch Please, c'est vraiment pas ça. Je veux dire, Sauver le soldat Ryan, la première affaire qu'on voit, ou du moins que ce que je me rappelle, c'est le gars avec ses intestins sur le bord de son corps, ou le gars qui ramasse son bras sur le champ de bataille. Je veux dire, non, on n'est vraiment là.
Non, mais c'est quand même très similaire dans le sens où il y a très peu de dialogue, d'exposition, de récits explicatifs. C'est pas justement... Il n'y a pas un soldat à sauver. Non. Puis là, on a des discussions entre amis. C'est vraiment comme... Le film commence pratiquement in medio res. Ça s'ouvre vraiment sur quelqu'un qui se promène dans une ville déserte. Puis là, il se fait tirer d'on sait pas où. Il se sauve. Puis comme pendant une heure et demie, c'est des alternances de moments un peu de... C'est quasiment un amalgame de toutes les scènes d'action des films de guerre. Là, t'as la scène, mettons, d'un bateau qui se met à couler. T'as la scène des trucs comme ça. Fait que, mettons... U571 avec la scène de Saving Private Ryan, des bouts de Titanic, puis tu sais, t'as à peu près l'idée un peu de quel type de film c'est.
Exact. Mais on sugarcoat tout ça dans un film relativement familial. Est-ce que c'est un problème? En fait, non. Encore une fois, il y a des belles idées, comme il y a un personnage, il y a un soldat qui est complètement désemparé à maner, puis qui va juste comme... il laisse son casque puis il s'en va dans l'eau, puis c'est un petit peu une genre d'allégorie, un personnage qui est tellement désemparé que c'est carrément un suicide, mais c'est évoqué avec une certaine poésie. Puis encore une fois, la grande force du film, c'est aussi d'envelopper ça dans un aura de surréalisme. Puis ça, c'est très bien. Je pense que la bande-son y est pour beaucoup, autant dans la conception sonore que je trouve que la musique de Hans Zimmer fonctionne très bien. Il y a un premier cue musical, entre autres, qui est vraiment superbe. C'est peut-être une des premières fois où la musique de Hans Zimmer prend vraiment le devant sur les images. Parce que d'habitude, Hans Zimmer, il réagit puis il placarde ça un peu comme un gros plaster, mettait à gros coups de tambour quand même. Là, je trouvais qu'il y avait un cue musical que j'ai trouvé particulièrement intéressant, qui me rappelait quasiment Derry B. Blood. C'était en début de film, là. Il y a deux personnages qui ramassent un brancard puis qui essaient d'arriver dans un bateau. Puis là, la musique, tout à coup, elle donne vraiment le ton, tu sais, le thrill, puis elle précède finalement, elle laisse présager que quelque chose va arriver, mais quelque chose n'est pas encore en train d'arriver. Ça, je trouve que c'est un des moments les meilleurs du film, carrément.
Puis tout le long du film, en fait, si vous avez vu la bande-annonce, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisation d'une espèce de tic-tac qui rappelle un peu que le temps file, qu'à chaque seconde, tu peux te faire tirer d'une balle perdue. Puis t'as souvent, le travail sonore est quand même absolument immersif et impressionnant. Tu as souvent comme les espèces de bruits, les bruits d'avion au loin, là, que tu penses, est-ce que c'est un chasseur, est-ce que c'est un des nôtres? T'sais, ça devient des bruits, quasiment un bruit d'un T-Rex. C'est comme ça devient super. C'est comme le prédateur qui arrive.
Star Wars, un peu, là, les TIE Fighters, ce genre de traitement sonore-là, comme pour illustrer les chasseurs. Là,
ça devient super. Les gens se deviennent paranoïaques un peu. Puis on s'imagine aussi qu'ils passent des jours et des jours sur les plages, des fois à espérer, puis à très peu manger, puis à très peu dormir. Bon. Fait que tu t'imagines vraiment l'état d'esprit dans lequel ils sont.
C'est ça, un genre de cauchemar éveillé, un genre de rêve. Puis ça, je trouve que c'est un parti pris esthétique franchement intéressant. Puis une chance qu'il y a ça. Une chance qu'il y a ça. Parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose d'autre. En tout cas, toi, Paul, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que je vais rebondir sur toi, là, je veux pas nécessairement juste partir sur mon rant, là.
Ben, je suis pas mal similaire à toi, en fait. Puis, tu sais, il y a des points aussi que j'aimerais s'aborder de manière très précise, mais que je veux pas non plus gâcher la surprise à ceux qui l'ont pas vu. Fait qu'on on va s'en abstenir.
Je l'ai pas vu, moi.
Mais je
sais. Ça, fait qu'on va pas trop dévoiler de trucs.
J'ai pas vu, moi, guys, j'ai pas vu.
Mais notamment, tu sais, l'éléphant dans la pièce, OK, c'est Est-ce que tout son traitement là, non chronologique, là, puis de revenir en arrière, puis de montrer des scènes à deux ou trois reprises.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que ça ajoute?
Ça ajoute rien. Nolan, là, pourquoi les gens l'aiment autant? J'ai l'impression que c'est parce qu'il nous fait nous sentir intelligents avec des affaires qui sont profondément bêtes. Tu sais, genre, tu te sens vraiment, t'as comme des épiphanies en regardant Nolan. Oh my god, c'est un rêve dans un rêve. Ouais, ou tu sais, Interstellar. Tu sais, comme, oh my god, le temps. Il nous fait nous sentir intelligents. C'est comme, il nous gratifie, genre, avec de quoi qui, au final, est un device qui est complètement artificiel. Puis, mais comme je te dis, Paul, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment superflu. OK, mais une chance aussi qu'il y a ça, parce que effectivement, si tu l'enlèves, est-ce qu'on vient pas de gâcher cette petite gratification instantanée là?
Moi, justement, même... c'est que ça m'a fait décrocher parce que
j'aurais décroché, toi?
Moi, j'aurais préféré. Moi, je trouve que la proposition de ça, d'avoir une espèce de film de guerre ultra immersif où il y a pratiquement pas entre guillemets de scénario entre guillemets.
Ça va, il y a aucun problème à faire ça.
Ça c'est super cool. Ah, oui. Et les scènes que j'ai préférées, en fait, c'est les scènes qu'on voit une seule fois. Tu parlais rapidement là, de la scène au début du film où ils se font passer pour des infirmiers, ils ramassent un blessé, puis il essaie de souffler à l'avant du bateau. Ouais. C'est une scène super efficace, mais super tu la vois une seule fois, cette scène-là. T'as pas besoin de la voir. À chaque fois, en fait, que tu revoyais un moment, j'avais l'impression que ça diminuait le pouvoir de ces moments-là.
Peut-être, ouais.
Parce qu'il te le remontrait tout le temps. Et c'est comme... Puis aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de très prétentieux. Tu sais, il va vraiment chapitrer au début du film ces trois sections. Tu sais, un, de mole. Puis là, c'est genre one week. Tu sais, dis comment ça dure de temps. Deux, de sea, one day. Genre 3, The Air, 1 hour. Puis c'est vraiment comme trop conceptuel. T'sais, c'est comme, tu me donnes un film qui est vraiment sur l'instinct de survie, sur le côté animal de la guerre. Ouais. Ben, je m'en fous de savoir que les trucs... Parce que, évidemment, s'il fait un concept comme ça, c'est un peu parce que... J'essaie d'être vague, là, mais il y a des trucs... Disons qu'il y a des personnages qui vont interagir, puis il y a des récits vont s'amener à se croiser. T'sais, évidemment, on s'attend à ce que ce soit un peu comme ça.
C'est ça. Mais fait que là, il faut que tu réfléchisses au temps puis te dire, OK, ben quand est-ce que ça s'intercroise justement parce que comme dans les airs, ça va plus vite que sur la Terre, tout ça. Mais c'est ça que je veux dire par une gratification vide et un peu inutile du spectateur.
Ouais.
Nolan nous fait nous sentir intelligents puis j'ai l'impression que c'est pour ça que tout le monde dit qu'il est intelligent. Mais c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la vie, guys. En tout cas, mais t'enlèves ça...
Moi, j'aurais préféré un récit linéaire. Mais tout en gardant les trois niveaux, tout en gardant l'alternance d'une place à l'autre, d'un récit à l'autre, entre guillemets, parce que ça, c'est depuis Griffith, c'est le montage alterné, ça marche super bien. Ça rappelle même en fait le chapitrage d'un livre. Chapitre dans l'air, là, tu passes à un autre chapitre au sol, puis tu as toujours hâte de tourner les pages, puis de voir où ça s'en va, parce que tu laisses toujours les récits en suspens. Mais de revenir en arrière, puis de montrer de tel autre point de vue, mettons. Pour expliquer un peu, mais mettons, à un moment donné, t'es dans l'avion avec Tom Hardy, là, il se passe quelque chose, puis après ça, plus tard, mettons, ben, t'es du point de vue du bateau qui voit Tom Hardy en l'air, tu sais. C'est un peu ça qui se passe dans le film, là. Puis ça, pour moi, c'est superficiel, en fait, puis ça vient un peu intellectualiser une démarche qui serait censée être plus viscérale, plus instinctive.
C'est pas le fils de... C'est comme si tu commençais à faire ça dans un film comme Le Fils de Saul. Effectivement, qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce que ça nous sort de l'expérience ou pas?
Ouais, puis j'avais pas pensé au Fils de Saul. Puis c'est une très bonne comparaison parce que justement, les deux, c'est des films de guerre, même de Deuxième Guerre mondiale, ultra immersifs, puis très, très... on rend des propositions audacieuses auxquelles ils tiennent tout au long du film. Mais Le Fils de Saul n'a pas cette faute de goût-là, selon moi. Puis, effectivement, le dernier 15 minutes, pour moi, j'aurais coupé, en fait. Il y a une espèce de... Tu l'évoquais rapidement, je ne veux pas trop en parler. Mais
moi, je l'ai pas vu.
Non, c'est ça. Mais le film commence, c'est une médiorèse un peu. Ça commence dans l'action, puis j'aurais préféré que ça finisse dans l'action. Ça aurait peut-être été plus ambigu, parce que évidemment, chaque entre guillemets victoire dans ce film-là, c'est une victoire de sa mère. T'sais, des fois, les gens applaudissent parce qu'ils ont réussi à sauver des gens, mais c'est toujours comme ils ont réussi à sauver quelques personnes, mais d'autres viennent de se faire tuer.
Non, il y a de l'amertume, c'est profondément ambigu, genre.
C'est fait que ça on célèbre comme
une
ça,
opération en fait, de sauvetage d'une bataille qui a été perdue. Juste ça, quand tu le dis. C'est clair comme de l'eau de roche qu'il y a une ambiguïté puis que ça devrait être, je pense, morose ou ne serait-ce avoir... T'as le point de départ le plus parfait pour réellement parler de la guerre avec en mettant des gros bémols puis en ayant de quoi à dire. Mais non, genre, on refinit en gros coup de fanfare puis Genre, mais as-tu perdu la tête? As-tu perdu la tête,
Ouais,
Christopher
c'est
Nolan, pour
vraiment
vrai?
étrange. C'est quasiment. À
Comme.
quoi on pourrait comparer ça? C'est quasiment la finale de Psycho, là. Tu sais, c'est comme une grosse rupture de ton.
C'est ça. C'est ça.
Puis. Ouais, c'est étrange. C'est comme un gros cheveu sur une soupe qui était vraiment bonne jusqu'à présent,
Ben, qui était. Au moins, était digeste, là, tu sais.
sais.
Puis. Non, mais c'est ça. Puis c'est parce que, en fait, c'est peut-être parce que. Encore une fois, peut-être une blague de chasseur puis d'avion, mais c'est parce qu'il tombe de tellement haut que j'en suis aussi fâché, finalement. Tu sais, que j'en ressors aussi déçu. Parce qu'il y a trop de promesses dans ce film-là. Je veux dire, il y a trop de choses qui sont bien faites. Mais je vais même, quand même, questionner le film Thrill comme simple but d'exister. Ça, je le questionne. Parce que, tu sais, le cinéma, OK, a plusieurs vertus. Tu sais, c'est un art form qu'on le sait, a des qualités infinies. Mais strictement, pour nous donner de l'adrénaline, je veux dire, tant qu'à ça, je vais aller sauter en parachute ou je vais faire du bungee ou je vais faire autre chose. Tu sais, je pense pas que le cinéma, c'est pas le simple but, comment dire, ça justifie pas
Est-ce que c'est parce
l'existence.
que ça s'attache à un événement historique, à la Deuxième Guerre? Est-ce que c'est pour ça que ça te
Non,
dérange ou...
non, 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 non. Mais ce que je veux dire, c'est que de juste défendre le film sur la base de l'expérience puis de l'adrénaline, pour moi, ça demeure quand même insatisfaisant. Ça demeure quand même insatisfaisant. Je trouve que le cinéma a toujours plus à offrir. Il y a toujours plus d'empathie à gagner. Il y a toujours plus des personnages à développer. Il y a toujours un discours intellectuel plus riche à peaufiner. Pour moi, de strictement rabattre la qualité du film juste sur l'expérience puis sur les prouesses techniques, on est encore en train de
Je
pardonner des
pense,
fautes
ouais.
de goût au film. Puis je pense pas que ça peut justifier l'existence d'un film aussi creux puis aussi con. De juste dire
Ouais.
que c'est un bel objet ou un objet
Et je
immersif.
pense que t'es un peu dur, peut-être. Puis, tu sais, comme je pense pas non plus que les éloges, c'est uniquement en termes d'adrénaline. Tu sais,
Non,
c'est pas un calcul
non, non.
mathématique. Puis, tu sais, y a aussi comme. Moi, je trouve vraiment des segments de mise en scène incroyables dans ce film-là.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Puis, tu sais, ça va au-delà de. Mon cœur battait vite. C'est un peu comme, mettons, pense à un film comme, mettons, Mad Max Fury Road, là, qui
Oui,
bon, c'est un
oui.
autre type, évidemment, c'est un autre genre, mais ce film-là aussi est un peu une approche audacieuse. C'est quand même relativement simple comme proposition. Il y a très peu de dialogue, c'est beaucoup sur l'action. Puis, tu sais, le cinéma, c'est ça aussi, c'est des images et du son en mouvement. Puis, fait et Dunkirk et War of the Planet of the Apes, en fait, je trouvais ça bien, en fait, de revenir. Parce que Dunkirk, au final, c'est un film très classique, en fait. C'est un cinéma quasiment,
Ouais.
que
Enlève le petit cube
Griffith
de
aurait pu
Rubik. C'est
faire,
ça.
là, tu sais.
Enlève le petit cube de Rubik un peu que Nolan a voulu faire parce qu'il aime les puzzles. Puis effectivement, on est, tu sais, on vient de faire un peu un film de guerre intemporel, tu sais, qui était relativement classique. Non, non,
Ouais.
c'est vrai, ouais.
Puis ça, j'haïs pas ça, justement, ça, une espèce de cinéma comme ça qui nous ramène aux bases de... Parce que, surtout, je trouve que le cinéma d'aujourd'hui est peut-être trop explicatif, puis peut-être que ça vient du fait que la télé est rendue... aussi omniprésente, mais tu regardes le nombre de dialogues en moyenne dans les films d'aujourd'hui, il faudrait faire une étude comparative, là, mais je garantis qu'il y a plus de dialogues dans les films d'aujourd'hui, puis là je parle du cinéma américain, d'Hollywood,
Ouais, relativement à grand public, là, ouais.
c'est ça, que dans les... J'en regarde des fois, là, ça fait du bien de regarder des classiques, là, du cinéma des années 70 ou des trucs comme ça, où il te vraiment très peu de dialogues, tu as des longues scènes où tu n'as pas besoin de dialogue justement tout le temps pour expliquer ce qui se passe. T'sais. C'est vraiment du cinéma, t'sais, des corps qui bougent, des choses qui se passent, des travelling de caméra, c'est aussi ça le cinéma. Donc, ouais, c'est fait pour ça, en fait, ça a beaucoup. Moi, le film m'impressionne, Dunkirk, mais selon moi, ce n'est absolument pas un classique de guerre, ce n'est absolument pas un des gros films de l'année. Donc, voilà.
Okay. Ben non, ben, tu regardes, écoute, le temps file, mais c'est. Regarde, allez le voir, assistez-vous avec nous, c'est bien correct, puis je préfère de loin que vous ayez voir ce film-là que vous ayez voir un énième film d'un plan de conquête du monde de Marvel ou, tu sais, je sais pas quoi, là, tu sais.
Transformers 5.
Dunkirk!
Je l'ai pas vu, par exemple. Je l'ai pas vu.
Ouais.
On va
Si
commencer
tu l'écoutes
là-dessus.
d'ici là, Rémi, tu pourras nous dire ton avis.
Ouais, certain, j'ai juste, ouais, il faudrait que je me force, je fais ma
Ouais.
Fantasia. Non, mais je vais le rattraper, il va être en salle pendant 2 mois, anyway, là.
Parfait.
Donc, voilà. Ah, puis sinon, ben, vive les films en 70 mm. Ça,
Ah,
c'est.
ben ça.
Je suis très content. Alors, c'était notre point de vue cette semaine. On va se quitter sur la bande-annonce du film Atomic Blonde de David Leitch,
Oh, yeah!
qui va jouer dans le cadre de Fantasia d'ailleurs.
Bon.
Je suis très hâte de voir ça avec Charlize Theron et Sofia Boutella. C'est notre point de vue. Mon nom est Paul Andréau. J'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante. Someone set me up. Someone from the inside.
Lorraine. There's a double agent hunting our operatives in Berlin. Your mission. Find out who did this. Remember, trust no one. Your contact is David Percival.
So what was your first impression?
Disastrous.
Berlin has its own set of rules.
I trust you about as far as I can throw you.
You sent me into a hornet's nest. But then you knew that, didn't you?
Fasten your seatbelt.
The clock is ticking.
I'm impressed.